Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans manceaux avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafon. Cette semaine, il y a 8 nouveautés, Maria, 5 septembre, God Save the Tush, mon gâteau préféré, Présence, La Pampa, Paddington au Pérou et Pororo et le dragon géant. Pororo et le dragon géant, c'est un film d'animation qui est proposé uniquement au Méga CGR avec 2 séances par jour. C'est parce que les vacances arrivent, c'est pour ça. On en reparlera si on a le temps. Pour ce qui est de la programmation musicale, une fois n'est pas coutume, ça sera de l'opéra, beaucoup d'opéra. Ben oui, le film de la semaine, c'est Maria, consacré à Maria Callas. Et évidemment, on va donc écouter des titres, ça n'est pas fréquent sur Clap, des titres d'opéra. Et on commence par le célébrissime Castadiva, interprété donc par Maria Callas sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Castadiva, Maria Callas, un titre que l'on entend bien entendu dans le film Maria, dont on parle tout de suite. Maria, c'est un film qui est proposé au Pâté Quinconce et au cinéaste évidemment uniquement en version originale, au Pâté Quinconce, version française, version originale. C'est un film réalisé par Pablo Larraín, réalisateur, scénariste, producteur chilien né en 1976. Son premier long-métrage Fuga est inédit en France, mais en 2008, on a pu découvrir Tony Manero. Ensuite, en 2010, Post-Mortem, 2012, No, avec Gaël Garcia Bernal. 2015, El Club. 2016, Neruda, un biopic consacré à Pablo Neruda, avec déjà encore plutôt Gael Garcia Bernal. 2016, Jackie, consacré à Jackie Kennedy, avec Nathalie Portman, Peter Sarsgaard et Greta Gerwig. 2019, Emma, avec Gael Garcia Bernal. 2021, Spencer, consacré à Lady Di, mais c'était uniquement pour Amazon Prime Video. C'était Kristen Stewart qui jouait donc Lady Di. 2023, Le Comte, un film pour Netflix. Et aussi, Pablo Larraín a réalisé des épisodes de série. Pierre, parle-nous de Maria.
Durée 2h03, avec Angelina Jolie, Pierre-Francesco Fassino et Alba Rohrwacher. Le synopsis, la vie de la plus grande chanteuse d'opéra du monde, Maria Callas, lors de ses derniers jours en 1977 à Paris. La revue de presse, cinématiseur avec Aurélien Alain, un film sublime et sépulcral comme un voyage vers la mort. L'humanité avec Sophie Joubert. Saluons le beau travail du chef opérateur Ed Lachman, qui, en mêlant le 35 mm, le 16 mm et le Super 8, la couleur et le noir et blanc, donne au film une patte vintage, un objet étrange et fascinant qui, si on fait abstraction des scènes de chant ratées, en dit autant sur la Callas que sur la star qui l'interprète. Le point. Le film est sombre, puissant, porté par de superbes scènes d'opéra, tournées en partie à la Scala de Milan, qui revisite les grands moments de la carrière de Maria Callas, d'Anna Bolena à Tosca. Télérama avec Samuel Douer. Sous la caméra virtuose de Pablo Larraín, Angelina Jolie est déchirante. La Croix avec Emmanuel Giuliani. Omniprésente à l'écran, Angelina Jolie fait corps et voix avec la diva des divas Maria Callas, sans convaincre tout à fait. La monotonie engourdit un peu à l'écran. Le Figaro avec Eric Neuhoff. Le film de Pablo Larraín avec Angelina Jolie dans le rôle de la cantatrice se regarde sans ennui, mais sans passion non plus. Le Parisien avec Renaud Baronian. Si Maria est sérieusement et joliment réalisée, avec une Angelina Jolie qui livre une prestation honorable dans le rôle de la cantatrice, le spectateur trouve le temps long et sinistre. L'Obs avec Nicolas Schaller. Plus apte à incarner la solitude de la diva qu'à mimer son chant, Angelina Jolie est bien entourée par Pierre-Francesco Favino et Alba Rohrwacher, dont le film aurait gagné à adopter le point de vue, histoire d'en avoir un. Les Inrecuptibles avec Jean-Baptiste Morin. Au-delà du spectacle pâteux de la décrépitude d'une femme morte à 53 ans d'une bête embolie pulmonaire, le film ne nous dit rien de ce qu'elle fut. On voit la peinture, pas la figure. Ouest France avec Thierry Chaise. Une mise en scène manquant de relief, façon magazine sur papier glacé, qui suscite l'ennui. Et enfin, Première avec Thomas Borez. Angelina Jolie performe joliment, mais chante dans le vide d'un espace sans écho, diva sans voix, triste projet.
Maria, vous voyez, c'est très partagé. C'est proposé aux cinéastes et aux méga. Et aux Pâté Quinconce, pardon. Méga. CGR, ils ne l'ont pas, Maria. C'est pas un film qui est trop dans l'esprit du public qui, d'habitude, va au méga CGR. Donc, la série des biopics continue. Hein. On a eu biopic consacré à Robbie Williams. La semaine dernière, c'était Bob Dylan. Et bien là, cette fois-ci, on a un biopic qui est consacré à la cantatrice Maria Callas. On est en septembre 77. La diva vit désormais recluse dans son somptueux appartement parisien, entourée de ses deux seuls fidèles domestiques, un majordome et une dame de compagnie, on va dire. Elle n'est pas montée sur scène depuis 4 ans, depuis qu'elle a perdu sa voix. Et le film imagine ses 7 derniers jours avant son décès, à travers une interview imaginaire. Le film évoque en flashback ce que fut la vie de Maria Callas, une adolescence quasi misérable en Grèce au moment de l'occupation allemande et sa quasi prostitution par sa mère, hein, presque prostitution mais pas tout à fait. Le film évoque bien entendu les premiers succès également, sa rencontre et son histoire d'amour très compliquée avec Aristote Onassis. Le film évoque aussi ses triomphes sur les scènes lyriques du monde entier et c'est l'occasion d'entendre ses prestations vocales les plus fameuses dans les grands rôles du répertoire. On va en avoir quelques extraits dans Clap cette semaine. Le film montre dans une atmosphère crépusculaire, je dirais viscontinienne, pour faire allusion au film de Visconti, une atmosphère crépusculaire, la personnalité complexe de Maria Callas, interprétée avec un incroyable mimétisme par Angelina Jolie. Angelina Jolie est quand même beaucoup plus belle que Maria Callas, on s'en rend compte parce qu'à la fin, on a des photos de Maria Callas. Maria Callas, ce n'était pas une beauté telle que Angelina Jolie. Mais enfin, bon, ce n'est pas très grave. Angelina Jolie incarne dans Maria Callas, une femme en pleine dépression au moment où on la voit, donc en 1977, devenue complètement addict à toute une pharmacopée de médicaments qui vont finir par la détruire. Donc, un film avec une direction artistique éblouissante. L'image est somptueuse, des effets spéciaux intelligents au service de l'histoire. C'est un film qui est visuellement somptueux, où alterne donc séquences en couleur pour le présent et en noir et blanc, séquences figurant le passé. Visuellement, c'est splendide, hein. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique, c'est somptueux. C'est recommandé sans restriction aux fans d'opéra. Les autres, évidemment, risquent de s'ennuyer. C'est peut-être pour ça que Pierre n'est pas allé le voir.
Non, j'aime pas trop, non.
Voilà. Mais moi, je suis allé voir et j'ai trouvé ça bien. Ça dure 2 heures. J'ai apprécié, je dois dire que j'ai apprécié le film. Tout comme j'ai apprécié le film dont on va parler tout de suite, qui s'appelle 5 septembre. 5 septembre, c'est un film allemand. Suisse, Suisse, réalisateur, scénariste, producteur suisse, Tim Fellbaum. Jusqu'à maintenant, il a réalisé des films, un pour Amazon qui s'appelait Hell, Enfer, et 2021, La Colonie, avec la VOD. Sinon, c'est son premier film distribué en France. Et le film est proposé au Méga CGR. Je ne suis pas sûr. En tous les cas, il est proposé à coup sûr au Pathé Quinconce, puisque c'est là que je l'ai vu, et avec de la VO et de la VF. Pierre, raconte-nous ce que tu peux nous dire sur 5 septembre, pendant que je vérifie qu'il est bien proposé au Méga CGR.
Durée 1h35, avec Tim Fellbaum, par Moritz Binder et Tim Fellbaum. Ça c'est les réalisateurs, je me suis trompé de ligne. Avec Peter Sarsgaard, oui. John Magaro et Penny Chaplin, voilà.
Oui, et alors, 5 septembre est bien proposé au Méga CGR.
D'accord, le synopsis est assez long. Hein. 5 septembre nous replonge dans l'événement qui a changé le monde des médias à jamais et qui continue de résonner à l'heure où l'information, le direct et la maîtrise de l'antenne restent l'objet de nombreux débats. Le film se déroule lors des Jeux Olympiques de Munich en 1972, où l'équipe de télévision américaine se voit contrainte d'interrompre subitement la diffusion des compétitions pour couvrir la prise d'otages en direct d'athlètes israéliens. Un événement suivi à l'époque par environ 1 milliard de personnes dans le monde entier. Au cœur de l'histoire, l'ambition jeune producteur Geoff veut faire ses preuves auprès de Rune Arledge, son patron et légendaire directeur de télévision, avec sa collègue et interprète allemande Marianne. Son mentor Marvin Bader, Geoff va se retrouver confronté au dilemme de l'information en continu et de la moralité. La revue de presse, elle, avec Françoise Delbecq, un docu-fiction passionnant. Cinématiseur avec Aurélien Alain, une intelligence de chaque instant qui mène le spectateur à interroger son propre rapport aux images, rendant ainsi le thriller éminemment plus captivant, humain et résilient. Le Figaro, avec Eric Neuhoff, filmé comme un documentaire, son long métrage brille par son efficacité. Le Parisien, avec Renaud Baronian, un long métrage qui va à un tel rythme et évite tant toute fioriture qu'il colle une boule au ventre du début à la fin. Le Point, avec Jean-Luc Wachthausen, entre images d'archives et scènes reconstituées, un suspense haletant vécu en direct avec à la clé des émotions intenses et des sentiments contradictoires sur les limites entre information et voyeurisme. Le pari est ambitieux, mais gagné avec brio par Tim Fellbaum. Marianne, avec Olivier De Bruyne, un film américain captivant sur la prise d'otages des JO de Munich en 1972. Ouest France, avec Philippe Lemoine, captivant et inquiétant. Le Journal du Dimanche, avec Stéphanie Belpech. Un thriller tourné à huis clos, sous tension permanente et redoutablement efficace, même si on en connaît l'issue. Libération avec Clément Colliot. 5 septembre aurait alors pu, en point d'orgue, donner à voir une origine de l'ère de la post-vérité. Tout de même fort bien mené, il apparaît légèrement en deçà de son potentiel, celui d'un grand film à l'heure des enjeux médiatiques et contemporains. Enfin, première, avec Frédéric Foubert, en résulte un thriller studieux, appliqué, très pédago, dont la modestie est la principale qualité et qui calque sa rigueur et son esprit de sérieux sur le groupe de professionnels en bras de chemise qu'il dépeint.
5 septembre, c'est proposé par le Méga CGR, je confirme, et par le Pâté Quinconce. Au Pâté Quinconce, c'est sûr qu'il y a de la VO, puisque je l'ai vu en VO. On est donc le 5 septembre 1972, ça correspond au jour de la prise d'otage des athlètes israéliens par le groupe terroriste palestinien Septembre Noir lors des JO de Munich. Le film relate cet événement à travers le direct des événements direct télé par la chaîne ABC qui avait l'exclusivité sportive des JO pour les États-Unis. C'est un film passionnant de bout en bout, plusieurs critiques l'ont souligné, moi je le répète, c'est un film passionnant de bout en bout, on ne quitte pas un instant les bureaux et la régie de la chaîne de la capitale, dans la capitale bavaroise, c'est un huis clos hein, le film. On est spectateur et on est dans la peau des journalistes et des techniciens chargés de couvrir un événement qui sont au départ purement sportifs, c'est les Jeux Olympiques, c'est l'équipe des sports de ABC qui est là. Et d'un seul coup, ils se retrouvent dans l'urgence à devoir traiter la prise d'otage, qui est un événement politique. Voilà. Donc le film évoque toutes les questions que ces journalistes sont amenés à se poser. La nécessité d'être sur le coup, évidemment, d'être le plus précis possible dans la relation des faits, c'est leur métier de journaliste. Des problèmes déontologiques, doit-on par exemple continuer à diffuser, sachant que les terroristes ont accès à la télévision et peuvent voir la télévision donc, et savoir ce que font les autorités par exemple. Le film pose la question, que doit-on montrer ou pas à l'antenne? Parle aussi du recoupement des sources, de leur fiabilité, des tensions au sein de l'équipe bien entendu, ces tensions entre qui consiste à trouver l'équilibre entre le voyeurisme et le désir de sensationnel et d'un autre côté la nécessité d'informer. Voilà, donc tout cela est filmé sans le moindre temps mort, avec une intensité rare. C'est filmé comme un documentaire, mêlant d'ailleurs les images d'archives et les reconstitutions. Il n'y a pas de temps mort, on a un montage qui rend compte de l'urgence, un grain d'image d'époque, reconstitué à la perfection. Un film que je trouvais remarquable sur le métier de journaliste et sur une époque où, pour la première fois, parce qu'aujourd'hui ça paraît banal, mais pour la première fois, ce type d'événement a été diffusé en direct et en continu, avec tout ce que cela implique sur la maîtrise de l'antenne et les objectifs poursuivis. C'est un film à voir absolument. Je l'ai vu en VO, je ne sais pas si ça peut donner en VF, j'ai des craintes, mais c'est à voir absolument. Ça s'appelle 5 septembre, c'est au Pâté Quinconce et c'est au Méga CGR. Pause musicale, eh bien, pause musicale, c'est de l'opéra, c'est Maria Callas, ça s'appelle Vici d'Arte et c'est un air de Tosca. Allez hop, c'est parti sur Radio Alpa. Come on. non, vous n'êtes pas sur Radio Classique ou France Musique, vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, et c'est Vici d'Arte, extrait de la Tosca, interprété par Maria Callas. C'est un air qu'on entend dans le film Maria. On change radicalement d'atmosphère, on passe à God Save the Tuche. God Save the Tuche, c'est un film qui est proposé par Le Colisée, Le Pâté Quinconce, Le Méga CGR, réalisé par Jean-Paul Rouve. Oui, ça n'est pas Olivier Barou qui avait réalisé les quatre premiers, c'est Jean-Paul Rouve, acteur, réalisateur, scénariste. Ça n'est pas son premier long-métrage en tant que réalisateur. 2007, Sans armes, ni haine, ni violence, c'était le film consacré à Spaggiari, avec donc Jean-Paul Rouve et Alice Taglioni. 2012, Quand je serai petit, avec Benoît Poulvorde et Jean-Paul Rouve. 2014, Les Souvenirs, avec Michel Blanc et Annie Cordy. 2017, Lola et ses frères, avec José Garcia, Ludivine Saillé et Jean-Paul Rouve. Rappelons que Jean-Paul Rouve, on l'a vu récemment dans La Vallée des Fous, qu'avait bien apprécié Pierre, je crois.
Oui,
bien.
Tout à fait.
On l'a vu aussi dans Le Consentement, Les Cadors, Le Trésor du Petit Nicolas, etc. Zaï, 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 voilà. Donc, Pierre, parle-nous des Tuches.
1h35 pour la durée. Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, il y en a d'autres aussi. Hein. Synopsis. Les Tuches mènent à nouveau une vie paisible à Bouzol, mais lorsque le petit-fils de Jeff et Cathy est sélectionné pour un stage de football à Londres, c'est l'occasion rêvée pour toute la famille d'aller découvrir l'Angleterre et de rencontrer la famille royale. Entre choc culturel et maladresse, les Tuches se retrouvent plongées au cœur de la royauté anglaise qui n'est pas prêt d'oublier leur séjour. La revue de presse, Le Parisien avec Catherine Ball. Ce nouveau volet réalisé par Jean-Paul Rouve se révèle très fidèle au précédent, avec quelques gags délirants particulièrement efficaces. Ouest France avec Philippe Lemoine, un divertissement familial fidèle au premier volet. L'Obs avec Guillaume Loison. Mené par un Jean-Paul Rouve de gala, des acteurs brillent moins par leur talent individuel que par leur esprit de troupe, chacun déroulant un petit numéro nécessaire à la bonne marche du collectif. Les Inrecuptibles avec Arnaud Allais. Le film prend ainsi la forme d'une succession frénétique de mini-sketchs et de vannes. Ce goût prononcé pour l'orgie épouse finalement assez bien la philosophie de la saga. Le Journal du Dimanche avec Baptiste Thion. Jean-Paul Rouve succède à Olivier Barou à la réalisation en gardant la même recette comique éprouvée. Le Monde. Un début laborieux est bientôt rattrapé par une cadence de gags, tel qu'un nombre raisonnable d'entre eux, c'est bien le moins, font mouche. On rit donc toujours, mais quelque chose dans l'huile de cuisson rend les frites moins croustillantes. Première, avec François Léger. Le film donne l'impression de ne plus savoir sur quel pied danser, insère ici et là un humour absurde façon les nuls, et fait étrangement perdre à Jeff l'humanité qui compensait sa bêtise. Est-ce qu'on n'aurait tout simplement pas fait le tour de la saga ? Télérama avec Samuel Douer. Cela reste bon enfant, jamais méchant, mais très prévisible, avec un enchaînement mécanique de gags, souvent poussif, sinon répétitif, et une troupe en pilotage automatique. Bref, pour reprendre une expression chère à Jeff Tuche, les frites sont bien molles. Et enfin, Le Figaro avec Étienne Sorin. Après l'Amérique, Monaco, l'Elysée, Jeff et sa famille sont à Londres pour un cinquième volet consternant.
God Save the Tuche, Colisée, Méga CGR, Pâté Quinconce. C'est la cinquième fois que les Tuches ont rendez-vous avec les spectateurs sur grand écran. Et cette fois-ci, ils se rendent en Angleterre pour suivre leur petit-fils doué pour le football et repéré par les recruteurs du club d'Arsenal. Et comme Jeff Tuche, nous n'oublions pas, a été président de la République, eh ben ils sont aussi invités par la famille royale. Alors, à l'exception de quelques gags, références notamment à la pop culture, les Beatles, Paddington, Fort Boyard, et quelques gags, on va dire, non sensiques, ça c'est ce qu'il y a le meilleur du film, mais c'est à l'état de trace, et c'est à l'état de trace comparé au reste. Parce que le comique du film repose essentiellement sur la bêtise crasse de la famille, les deux grands-enfants, la grand-mère et surtout Jeff et Cathy. Alors Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty reprennent donc leur personnage avec leur accent du Nord et accumulent les gaffes sur le principe de gens propulsés hors de leur milieu, d'où nombreux quiproquos et inadaptations à leur nouvel environnement qui sont censés faire rire le spectateur. Alors si on est bien luné, on va trouver ça bon enfant, si on l'est moins, on va trouver cela consternant. Et j'avoue, pencher plutôt pour la seconde option, parce que très souvent, ça vole bas, mais alors très très bas, chaque acteur faisant son numéro habituel. Claire Nadeau dans le rôle de Mamie Tuche, aux propos volontairement incompréhensibles traduits en sous-titres grivois. Elle ne fait plus rire du tout. Déjà, elle ne me faisait pas trop rire au départ, mais enfin bon. Pareil pour Pierre Lottin et Sarah Stern dans le rôle de crétin absolu. Bref, les Tuches sont en roue libre totalement. La salle du cinéma Pathé, la salle 1, qui est quand même la grande salle du Pathé, était pleine. Je n'ai pas trouvé que ça avait ri beaucoup. Pour ma part, pas du tout. Avec ce cinquième opus, je crois qu'on a vraiment atteint la limite de la franchise. Je m'étonne de l'indulgence de certains critiques, d'ailleurs, qui bien souvent la donnent beaucoup plus dure, comme s'ils craignaient d'être négatifs avec un film visant un public populaire. Bref, je dirais que c'est un film pour les fans irréductibles et rien que, Pierre.
Mi figue, mi raisin pour moi pour ce cinquième volet des aventures de la famille Tuche. En effet, je pense que le bon côtoie souvent le pire en matière d'humour. Il y a de bonnes choses, c'est vrai. Je me suis d'ailleurs surpris à rire plusieurs fois, même si j'avais vu plusieurs bons gags dans la bande-annonce. Ah oui, c'est ça le problème des bandes-annonces que j'ai vues plusieurs fois. Hélas, il y a aussi des séquences que je qualifierais de lourdingues. Alors, question, y a-t-il un épuisement au bout de 5 épisodes ? Bah, figurez-vous qu'au Pathé, on m'a dit qu'un sixième était déjà en préparation.
Oui, je sais.
Oui. Alors, il faut espérer quand même que non, car paraît-il, oui, il y a déjà un projet pour un sixième. Selon moi, deux personnes tirent au mieux leur épingle du jeu. Jean-Paul Rouve, qui d'ailleurs pour la première fois réalise le film. Sarah Stern aussi, la fille de Miss Météo. Bah oui, c'est la fille de Catherine Laborde.
Ah bon ?
Oui, qui vient de nous quitter d'ailleurs. Eh oui.
Ah oui ?
Ah bah, faut quand même pas oublier quand même Isabelle Nanty aussi.
Oui, quand même. Donc, God Save the Tuche, c'est au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Mon gâteau préféré, lui, par contre, il est à consommer uniquement au cinéaste. C'est un film iranien. Alors, au cinéaste, Mon gâteau préféré a droit à une séance par jour. C'est un film iranien co-réalisé par Maria Mogadan et Behtash Sanesha. J'espère que je prononce bien. Tous deux avaient réalisé Le Pardon en 2020. Et sinon, ben, Maria Mogadan est aussi actrice, réalisatrice, scénariste, alors que Behtash Sanesha, lui, il est réalisateur, scénariste, producteur. Voilà. Alors, le film dure 1h36. Maïn, je ne sais pas comment on doit dire, a 70 ans et vit seule à Téhéran. Bravant tous les interdits, elle décide de réveiller sa vie amoureuse et provoque une rencontre avec Farah Marz, chauffeur de taxi. Leur soirée sera inoubliable. Aurélien Cabrol dans La Tribune Dimanche. Rarement on aura filmé les premiers instants d'une rencontre amoureuse avec autant de pudeur et de malice partagée. Olivier de Bruyne pour Marianne. Vous doutiez de la capacité des réalisateurs iraniens de s'approprier et de détourner les codes de la comédie romantique. Vous aviez tort. La preuve avec ce film insolent, émouvant et politique réalisé par un duo de cinéastes audacieux. Éléonore Houé pour L'Humanité, le duo à l'origine du Pardon, sorti en 2021, revient avec une œuvre tout aussi engagée, une célébration de l'amour au grand âge, à la fois douce et cruelle. Xavier Harper dans L'Obs évoquait la sexualité d'une femme et la filmait tête nue, a valu aux deux cinéastes l'interdiction d'accompagner leur film lors de sa présentation en compétition à Berlin, où il a reçu le prix de la critique internationale. Preuve définitive de la dimension politique et frondeuse de cette comédie aussi douce qu'acide. Ludovic Béot, Les Inoccupables, Mon gâteau préféré, pousse le cri politique le plus poétique et généreux qui soit. Frédéric Strauss dans Télérama qualifie le film tendre, drôle et audacieux. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche, ce récit d'apparence modeste mais drôlement tendre, cruel également, fait un charmant doigt d'honneur au régime avec son épicurisme et son romantisme sélicieux. Thierry Chaise en première, le film se fait joyeux, craquant, touchant, avant que, par touches d'abord invisibles, puis de plus en plus étouffantes, Mon gâteau préféré va raconter l'oppression quotidienne vécue par une femme en Iran, la pression du voisinage dès qu'elle reçoit un homme seul chez elle. Renaud Baronnier enfin pour Le Parisien, on ne peut qu'admirer le geste politique engendré par cette fiction qui ose, comme son héroïne, braver de nombreux interdits faits aux cinéastes et artistes iraniens. On est plus circonspect sur l'aspect narratif du film et les relations parfois étonnantes mais rarement passionnantes entre les personnages. Mon gâteau préféré, c'est aux cinéastes. Ni Pierre ni moi n'avons vu Mon gâteau préféré. Une seule séance par jour. Pour moi, ça explique un peu parce que j'avais pas la place de caser Mon gâteau préféré. Voilà, c'est au cinéaste. Présence, cette fois-ci, c'est au Colisée, uniquement au Colisée, avec de la VF et de la VO. C'est un film de Steven Soderbergh. Alors attention, Steven Soderbergh, c'est un grand réalisateur, hein, réalisateur, scénariste, producteur, directeur de la photo, compositeur, monteur, acteur, il est américain. Il est né en 63. Le premier long métrage qu'il avait réalisé, Sexe, mensonge et vidéo, avait obtenu du premier coup la Palme d'Or à Cannes. Et ensuite, eh bien, Steven Soderbergh, qui doit bien avoir une trentaine ou une quarantaine de films à son actif, a alterné des films grand public, vous allez en voir quelques-uns, et d'autres tout à fait, on va dire même expérimentaux. Alors donc, par exemple, dans 89, Sexe, mensonge et vidéo, 91, donc 89, Sexe, mensonge et vidéo, 91, Kafka. Ensuite, on va citer, ben, par exemple, en 95, À fleur de peau, avec Peter Gallagher, qui était un film, un polar. Et un film complètement expérimental en 96, Schizopolis. Ensuite, on revient à des films beaucoup plus grand public. 98, Hors d'atteinte, avec George Clooney et Jennifer Lopez. 98, L'Anglais, avec Terence Stamp. 89, Erin Brockovich, fort célèbre film avec Julia Roberts. 2000, Trafic, excellent film avec Michael Douglas, Don Cheadle. Et puis, grand public aussi, Ocean 11, c'est de lui, c'est avec Clooney et Brad Pitt. Et puis, plus expérimental, Solaris avec George Clooney, et puis Eros. Et puis, on revient à des films grand public, Ocean's 12, la suite des Eleven. Et puis, à nouveau, un film totalement expérimental, Bubble. Et puis, Ocean's 13. Et puis, Che, consacré au Che Guevara, première et deuxième partie avec Benicio del Toro. Enfin, on pourrait continuer comme ça. On va citer Magic Mike également comme film. Et puis, depuis 2017, Paranoia en 2018. Flying Bird pour Netflix. Des films pour Netflix. Et puis aussi, 2020, No Sudden Move avec Don Cheadle, Benicio del Toro. Des films pour des plateformes comme Max ou pour la VOD. Et puis, des épisodes de séries télé. Donc, une carrière extrêmement éclectique. Et retour de... Steven Soderbergh sur les grands écrans avec présence. Il y aura un autre film Steven Soderbergh à la fin du mois, au début du mois de mars également. Alors donc présence, ça dure 1h25, c'est avec Lucy Liu. C'est un moins de 12 ans, une famille aménage dans une nouvelle maison où une mystérieuse présence hante les lieux, d'où le titre présence. Alors Françoise Delbecq déclare que c'est juste terrifiant, elle déclare ça dans Elle. Aurélien Allen, un cinématiseur, se trouble Steven Soderbergh l'accentue au fil du récit, à mesure que l'intrigue, centrée sur des thématiques très actuelles, déploie violence, cruauté et suspense malsain, tout comme la présence s'insinue dans la perception de Chloé, présence s'immisce en nous, redoutable machine à images et à sensations. Le Parisien, une intrigue au départ obscure, mais qui prend ensuite une tournure insoupçonnée, devient subitement raccord avec l'actualité, avant de finir sur une conclusion aussi brutale que logique. Thierry Chaise dans West France parle d'un film concept ultra maîtrisé et haletant. Cécile Murry dans Télérama, une prouesse de cinéma et un film captivant. Yannick Velu dans Paris Match, concis, exploitant à merveille son concept. Un film fantôme en caméra subjective. Présent, c'est un petit bijou de cinéma fantastique. Jean-Marie Samocchi dans Cahiers du cinéma, à l'opposé de toute inquiétude métaphysique, la caméra fantôme n'est qu'un prétexte pour déployer un regard omniscient, bien plus satirique que fantastique, qui sonde les rapports de force au sein de la famille. Vous allez me dire, mais c'est que des éloges. Mais non, pas du tout, il y en a qui ont détesté. C'est Mathieu Macheret dans Le Monde. La caméra spectrale ne renouvelle pas grand-chose, mais applique un vernis moderniste sur une histoire bien essorée. La peur en est absente, car décentrée, et Soderbergh contraint d'appuyer sur les effets sonores comme sur les coupes arbitraires pour instiller un peu d'incertitude. Une maison hantée a plus besoin d'ombre et de brume que de ce regard clinique et fouineur pour lequel rien ne demeure caché. Nicolas Chaler dans L'Obs, huis clos conceptuel, donc, écrit par le scénariste David Koepp, qui avait fait le scénario de Panic Room, dont on se demande ce que Soderbergh cherche à faire. Une satire familiale, amusante, un thriller surnaturel, raté, un drame à la solution chimique, un peu court. Le Point, présence, est un drame familial original et distingué, avec une pointe de surnaturel, mais il n'est à aucun moment la proposition de renouvellement du genre épouvante que laissait envisager sciemment sa bande-annonce, de là à parler d'escroquerie, point de suspension. Étienne Sorin, Le Figaro, lui, il y va, l'escroquerie. Dans Le Figaro, la grande idée de Soderbergh est de tout filmer en caméra subjective à travers le regard de la présence, entité invisible et inodore, nichée dans tous les recoins de la maison ou dans les placards, à la fois menaçante et protectrice. Le dispositif lasse rapidement. C'est au Colisée, 1h25, un tel et moins de 12 ans, et plusieurs séances par jour, dont des séances en VO, pas vu, présence. Pause musicale, on va quitter Maria Callas et on va écouter Véronique Sanson. C'est pas le même type de voix. On entend Véronique Sanson dans le film La Pampa, dont on parle juste après, et c'est une chanson fort célèbre qu'on a déjà d'ailleurs passée dans Clap, ça s'appelle Baïa, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
S'il te plaît, je voudrais aller à Baïa. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion, très loin du son des accordéons, et je t'aime. Caresse-moi. Le matin, on ira voir l'eau de Baïa. Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mot payant. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas, et je t'aime. Caresse-moi.
Une de mes chansons préférées de Véronique Sanson, Baïa, et on entend Baïa dans La Pampa. Et bien justement, c'est le moment de parler de La Pampa. La Pampa, c'est un film français, c'est un premier film réalisé par Antoine Chevrolier. Antoine Chevrolier a commencé comme assistant réalisateur, il a à son actif des épisodes de séries comme Baron Noir ou Le Bureau des Légendes, et là c'est son premier long métrage. La Pampa, ça dure 1h43, c'est proposé par les cinéastes avec, je crois bien, 2 séances par jour, je vous le confirme dans un instant. Le synopsis, Willy et Jojo, 2 ados inséparables, passent leur temps à chasser l'ennui dans un petit village au cœur de la France. Ils se sont fait une promesse, ils partiront bientôt pour la ville. Mais Jojo cache un secret. Et quand tout le village le découvre, les rêves et les familles des 2 amis volent en éclats. Michael Mélina dans L'Humanité parle d'un premier long métrage épatant. Pascal Vergeau dans Ouest France parle d'un film juste et bouleversant. Romain Lefebvre dans Cahiers du cinéma, sous une facture classique, l'écriture témoigne d'un degré de finesse qui se retrouve à la fois dans le goût du détail, les virages du récit et les nuances des caractères. Corinne Renoux-Nativelle dans La Croix, ce premier film d'Antoine Chevrolier, raconte l'amitié entre 2 adolescents passionnés de motocross et séduit par la justesse de son ton et sa finesse d'écriture. Olivier Delcroix dans Le Figaro dit que c'est un premier film prometteur. Bruno de Ruisseau, Les Inrecuptibles, outre la justesse du jeu des acteurs, le film multiplie les déviations avec une vraie grâce, se joue des faux-semblants et finit par atteindre une densité tragique assez bouleversante. Louis Guichard dans Télérama, reflétant les progrès fragiles d'une génération à l'autre, ce film bouillonnant émeut profondément, sans accabler les protagonistes les plus toxiques, engoncés dans une masculinité rouillée, avance avec les idées au clair. Le Monde, en filmant La fin de l'enfance, Antoine Chevrolier donne un peu ici sa propre version de la tapisserie de l'apocalypse que Willy et Marina vont voir à Angers, la peinture d'un monde qui s'effondre pour en dévoiler un nouveau, que l'on peut espérer plus doux pour ceux qui osent affirmer leurs différences. Pour Saïd El Alami, qui irradie de bout en bout, nul doute, l'avenir lui appartient. Donc ça s'appelle La Pampa, c'est proposé par les cinéastes et c'est proposé avec 2 séances par jour, sauf samedi où il n'y aura qu'une seule séance. Donc Willy et Jojo sont 2 grands ados, sont les meilleurs potes du monde, ils sont tous 2 fans de motocross. Willy est même le mécano d'un Jojo qui a ses chances pour devenir champion de France de la spécialité. Jojo coaché par son père et un entraîneur attitré dont il est très proche. Et puis un jour, Willy découvre par hasard le secret de Jojo. Alors nous, on va le dire, hein, parce que c'est complètement stupide de ne pas le dire, parce qu'on le sait très très vite dans le film. Et bien, Jojo est homosexuel. Alors, passer la surprise, ben, ça ne change en rien leur relation d'amitié, mais il n'en sera pas de même de leur entourage, parce que quand ce secret sera divulgué sur les réseaux sociaux, eh ben, ça va complètement bouleverser la vie du village et des familles. C'est un film dans la veine naturaliste qui évoque les difficultés à être homosexuel encore aujourd'hui dans les campagnes, si on est dans le Maine-et-Loire, pas loin de Angers, mais aussi les difficultés des relations familiales, parents-adolescents, celle aussi à faire son deuil de la mort d'un proche, et puis ça parle aussi de la masculinité et de ses attentes. Ça débute comme un film d'ado, hein, les potes, les nanas, les bons moments passés ensemble à transgresser les règles. Puis le film devient franchement dramatique, puis tragique. Vous verrez pourquoi. Dommage, son point culminant est atteint au bout d'une heure, alors qu'il reste encore 40 minutes de film qui sont beaucoup moins convaincantes, mais qui quand même permettent d'aborder le thème de l'émancipation de ces jeunes ados qui n'aspirent qu'à quitter la campagne où ils ont toujours vécu et leur famille. Alors, on a de bons acteurs totalement crédibles. Les deux jeunes acteurs sont totalement crédibles. Ils sont entourés par de solides second rôles, Artus et Damien Bonnard, qui jouent dans des rôles d'adultes. C'est un premier film, un peu passe-partout, moi, je trouve, assez typique d'un cinéma intimiste d'auteur français. C'est solide, le ton est juste, mais c'est pas marquant au point de le recommander de façon absolue. Alors, à noter que le titre La Pampa désigne le terrain de motocross du village où se déroule l'action du film. Pierre ?
Alors là, je vais vous dire tout de suite, je n'ai pas aimé. Et j'ai trouvé le temps long, très long. Je ne suis vraiment pas fait pour ce genre de film où il ne se passe rien, ou presque rien, pas grand-chose du moins. Ah si, quand même, au bout d'une heure, il y a un enterrement.
Oui.
Donc, il y a un décès. Mmh. Ce film a été présenté à Cannes, mais n'a obtenu aucun prix. Ça me rassure. À propos du titre, oui, donc tu l'as dit, La Pampa est un circuit de motocross qui existe vraiment. Celui-ci est situé à Longué-Jumelles, petite commune du Maine-et-Loire, non loin d'Angers. Angers, d'où est originaire d'ailleurs le réalisateur. Réalité et fiction s'entremêlent donc, du moins pour le décor. Et puis dernière chose, trois personnes se sont associées quand même pour le scénario, que je trouve plutôt pauvre.
Voilà, ça s'appelle La Pampa. Pierre l'a pas aimé. Non. Moi, je suis très, très
mitigé,
on va dire. Paddington au Pérou, c'est proposé par le Colisée, le Méga CGR, le Pâté Quinconce. Au Pâté Quinconce, il y a de la 4DX. Au Méga CGR, il doit y avoir de la salle Ice. Je ne sais pas s'il y a de la VO, j'ai pas fait attention. S'il y avait de la VO, peut-être après tout, mais c'est pas nécessaire pour ce genre de films qui est plutôt réservé aux enfants. Pierre, parle-nous de Paddington au Pérou. Et déjà, le réalisateur, il s'appelle Dougal Wilson. C'est son premier long métrage.
Durée 1h45, avec les voix de Guillaume Gallienne, Ben Wishaw et Hugues Bonneville. Le synopsis, alors que Paddington rend visite à sa tante Lucie Bien-Aimée, qui réside désormais à la Maison des Ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères à travers la forêt amazonienne et jusqu'au sommet des montagnes du Machu Picchu. La revue de presse, Le Figaro avec Olivier Delcroix. Le film possède cette grande qualité de plaire aux petits et aux grands, tant il parsème son intrigue de références cinématographiques au chef-d'œuvre du 7e art. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpèche. Une comédie familiale interprétée par la crème des acteurs britanniques, lancée dans une chasse au trésor exaltante entre humour, action et tendresse. L'Obs avec Xavier Le Herpeur. Quel plaisir de retrouver ce héros gaffeur au cœur immense dans cette comédie d'aventure qui démarre de manière un peu pataude avant de retrouver un rythme endiablé. Le Parisien avec Pauline Conradson. C'est mignon, touchant, plein de bons sentiments, mais il y a des longueurs, un peu trop d'emphase, et on rit moins que dans les opus précédents. Les enfants devraient cependant adorer. La Croix avec Stéphane Dreyfus. Troisième volet des aventures du célèbre ourson de Feuillecôte. Paddington au Pérou n'est pas aussi drôle et rythmé que les adaptations précédentes, mais reste un bon divertissement familial qui interroge avec tendresse la notion de foyer d'accueil. Télé 7 jours avec Julien Barcillon. Un troisième opus tout aussi charmant que les précédents, entre aventures teintées d'un humour bon enfant et réflexions sur l'intégration et les familles de cœur que l'on peut choisir, la plus grande des richesses. Libération avec Elisabeth Franck Dumas. Au lieu de plonger la créature extraordinaire dans un milieu lambda pour gripper la mécanique avec des louches de marmelade, ce troisième volet la balade paresseusement dans un milieu exotique, la jungle péruvienne, et en voiture Simone, voyons voir ce qu'il se passe. Spoiler, rien d'intéressant. Et enfin, première avec Frédéric Foubert. Dans Paddington au Pérou, l'animation de l'ourson a beau toujours être au poil, et le très marrant Hugues Bonneville maîtrisait mieux que jamais son numéro de Papa Froussard, le récit suit une formule de comédie amazonienne beaucoup trop balisée, sans la maestria slapstick et pop des deux précédents volets, réalisé par Paul King, remplacé ici par Dougal Wilson.
Voilà, et bien moi je l'ai vu, Paddington au Pérou, oui, j'avais beaucoup aimé les deux premiers, donc je me suis dit, j'allais voir Paddington au Pérou, c'est la suite des aventures donc, de l'ourson Paddington. Cette fois-ci, il se retrouve au Pérou, comme le titre l'indique, et le Pérou, c'est son pays d'origine, si vous avez vu le premier Paddington. Il s'y retrouve avec toute la famille Brown, à la recherche de sa tante Julie, portée disparue dans la forêt amazonienne, après avoir été prévenue par la mère supérieure de la maison de retraite des ours. Alors, c'est le début d'une série d'aventures à la recherche du mythique Eldorado, convoité également ici par Hunter Cabot, l'aventurier joué par Antonio Banderas, qui se propose de les convoyer sur son bateau. Alors Paddington, il est toujours doublé en français par Guillaume Gallienne, il est toujours aussi mignon, il a toujours autant grand cœur, mais, alors peut-être est-ce l'habitude, j'ai trouvé ce troisième épisode, mais je crois que les critiques le disent aussi, ce troisième épisode moins drôle que les précédents, cela reste charmant, mais bon, tel quel. Le film est quand même réservé exclusivement à un jeune public qui appréciera sans nul doute ce récit d'aventure rythmé, quoique un peu long, 1h45, c'est un peu long. Les adultes regretteront peut-être l'humour so British davantage présent dans les deux épisodes précédents, mais apprécieront, c'est sûr, la tendresse et la candeur qui émane de l'ensemble. À signaler que je l'ai vu dans la salle 4DX et que ça secoue. C'était la première fois que j'y allais dans la 4DX. Ça secoue, mais vraiment, ça secoue. Pour un film comme Paddington, on ne croirait pas. Mais non, il y a des moments d'action et on est vraiment bien ballotté. Limite, s'il n'y a pas besoin d'une ceinture de sécurité sur son siège, tellement ça secoue. Enfin bref, ça s'appelle Paddington au Pérou. C'est proposé par le Colisée, le Méga CGR et le Pâté Quinconce. Pour mémoire, le Méga CGR propose aussi un autre film d'animation qui s'appelle Pororo et le dragon géant, ça dure 1h10. C'est un film, je pense, coréen, puisque le réalisateur s'appelle Yoon Jae-won. Ça fait bien coréen comme nom. Mm-hmm. Pororo et ses amis partent en mission au cœur des montagnes pour sauver le château du dragon et son puissant joyau, capturé tous les deux par un mystérieux méchant. On voit bien que c'est réservé quand même aux tout petits. Ça dure 1h10, évidemment. Je ne l'ai pas vu et c'est au Méga CGR.
Ça sent les vacances.
Oui, c'est exact. Alors, avant de vous annoncer les films la semaine prochaine, on va écouter une dernière fois Maria Callas. Va Pensiero, ça c'est bien connu. C'est le cœur des esclaves du Nabucco de Verdi. Et là, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Et on le coupera ou on parlera dessus pour les films de la semaine prochaine.
Thank you.
On va laisser en fond sonore Va Pensiero et vous parler des films à l'affiche la semaine prochaine, tout en rappelant que les rétrospectives Chantal Akerman et Clint Eastwood se poursuivent au cinéaste. Cette semaine, pour Clint Eastwood, c'est Invictus, et pour Chantal Akerman, Les Rendez-vous d'Anna. Il y a également aussi des films pour les enfants qui commencent à partir de lundi, puisque c'est les vacances scolaires.
Oui.
Sinon, eh ben, la semaine prochaine, on aura droit à Bridget Jones, folle de lui, sachant qu'il y a une après-première, c'est un concept, hein, le vendredi 14 février, c'est à Saint-Valentin, et donc le cinéma Pathé Quinconce a prévu une séance spéciale. Bon, Bridget Jones, folle de lui, ça on va aller voir.
Ah oui.
Captain America, Brave New World, c'est un film Marvel, ça on n'ira pas.
Non.
The Brutalist, j'y serais bien allé, mais 3h34,
voilà.
Il y a un quart d'heure de pause prévu, c'est très recommandé par les cinéastes, mais je pense que j'irai le voir en dehors de clap, parce que sinon ça me bousille complètement l'après-midi, je pourrais pas aller voir d'autres films. Et dans les autres films, il y a quand même Le Dernier Souffle de Costa Gavras, qui me paraît intéressant. Striptease Intégrale, c'est, je pense, l'émission Striptease fort célèbre qui passait il y a une époque sur France 3 avec des documentaires très très drôles. Il y aura Haut les Mains, un film de Julie Manoukian avec Émilie Caen et Vincent Elbaz. Il devrait y avoir ici le dessin animé Hola Frida, qui est prévu par les cinéastes. Voilà. Cette semaine, Pierre recommande quoi ? Ben rien.
Surtout pas la Pampa. Enfin, c'est personnel. Hein.
Oui, oui.
Bah si vous voulez rire, allez voir God Save the Touch.
Moi, je recommande Maria et 5 septembre.
Oui, je vais y aller. Ouais. Oui.
Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Pour une nouvelle, émission de Clap.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Alpa